Bonsoir à tous. Merci d'être là pour notre séminaire sur les patrimoines africains. Ce soir, Honoré Tchatchouang va nous donner une conférence sur la conception et les approches locales du patrimoine en Afrique subsaharienne, avec l'exemple du Cameroun et de la République centrafricaine. La conférence durera environ 1 heure et vous pourrez poser vos questions à la fin. Honoré, je vous laisse la parole et merci à vous.
Merci beaucoup de m'avoir passé la parole, cher. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette conférence. Elle porte sur la conception et l'approche locale du patrimoine au Cameroun et en République centrafricaine. Mon intervention se structure en trois grandes parties. Dans un premier temps, nous allons revisiter ensemble l'origine et l'évolution des musées au Cameroun et en République centrafricaine. Ensuite, nous allons aborder la question de la patrimonialisation des biens coutumiers dans les chefferies de l'Ouest au Cameroun. Et enfin, nous allons terminer par le Musée national de Barthélemy Bokanda. Le Cameroun, en quelques mots. C'est un pays situé en Afrique centrale avec une superficie de 475 442 km², une population estimée à plus de 27 millions d'habitants. C'est un pays bilingue qui en partage le français et l'anglais. Et l'une des particularités du pays, c'est qu'on retrouve des structures muséales dans l'ensemble des dirigeants avec une forte concentration dans la région de l'Ouest. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et en termes de typologie, nous avons des musées communautaires, des musées privés et des musées publics. Le musée national, par exemple, lui, il est logé dans la région du centre et autour gravitent 5 autres musées privés. Donc, je parlais d'une variété de dispositifs d'accueil et de conservation avec des institutions ultramodernes à l'image du musée maritime à Douala, des cases patrimoniales qui sont des petits musées adjoints aux résidences royales dans les chefferies. On les retrouve dans les régions de l'Ouest principalement, mais aussi dans la région du Nord-Ouest. Il y a des musées de facture classique, comme le Musée national à Yaoundé. Et enfin, il y a ce que fait l'UNSA et Bénédicte Savoy appellent les musées vitalisés par des architectures et des concepts novateurs. L'exemple le plus frappant en ce qui concerne le Cameroun, c'est le nouveau musée des rois Bamoun. Il a été conçu juste à côté du palais du roi Joya qui abritait l'ancien musée. On peut également citer à titre d'exemple le musée de l'eau. Le musée de l'eau est situé dans une petite bourgade tout près de Douala, sur les berges du Bona Ndja-Singambonjo. Et c'est un musée assez particulier, un musée assez vivant qui accueille plusieurs activités, telles que vous pouvez le voir en image. Là, on assiste par exemple à une course de pirogue. La Centrafrique, c'est également un pays voisin au Cameroun, un pays un peu plus grand, d'une superficie de 622 984 km². Une population beaucoup plus réduite par rapport à celle du Cameroun, avec un peu moins de 6 millions d'habitants. Le français et le sango sont les langues officielles. Contrairement au Cameroun qui a une quarantaine de musées, la Centrafrique a un seul musée qui est le musée national Barthélemy Bokanda. Il est installé dans l'ancienne résidence de Barthélemy Bokanda qui fut le fondateur de la République centrafricaine. Sa création a débuté dans les années 60 sous l'impulsion de deux ethnomusicologues, Geneviève Dunon et Chima Aron, pour ne pas les citer. Le musée Barthélemy Bokanda présente un intérêt à la fois archéologique, historique et artistique. C'est un musée qui est assez intéressant parce qu'il aborde l'ensemble des aires géographiques et culturelles du pays. Maintenant, qu'en est-il des origines et de l'évolution des musées au Cameroun et en République centrafricaine? En ce qui concerne le Cameroun, quelle est l'origine et l'évolution des musées au Cameroun? Comment s'est construite la politique muséale du pays? Quels en sont les pères fondateurs? Notons d'entrée de jeu, avec Yves Robert, qu'en Afrique, les musées se sont développés, même en milieu rural, sur la base d'une conscience occidentale du patrimoine. C'est un extrait d'un article publié par Yves Robert dans Afrique, musée et patrimoine pour quel public? Alors, au commencement, il y a eu la Société d'études camerounaise, une association créée à l'initiative de Jules Répliquet, qui fut gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, puis haut-commissaire de la République française au Cameroun. Le 8 juin 1935, il réunit un groupe d'acteurs en assemblée constitutive en vue de créer une association chargée d'étudier les questions ayant trait à la culture et à la connaissance des peuples du Cameroun. L'objectif du gouverneur Répliquet était de reproduire au Cameroun le modèle de la société d'études néo-calédonienne qu'il avait fondée à Nouméa, alors qu'il officiait comme gouverneur de la Nouvelle-Calédonie. L'idée était de sauvegarder les derniers témoins matériels des coutumes et des traditions insulaires. Ceci dans un contexte marqué par la transformation radicale des civilisations locales du fait de la rencontre avec l'Occident. C'est ce même schéma d'action qui fut transposé au Cameroun. La Société d'études camerounaise faisait connaître ses travaux au moyen d'une publication périodique intitulée Bulletin de la Société d'études camerounaise. Elle disposait des locaux à Yaoundé avec un centre d'archives, des collections et une bibliothèque. À ce stade, on peut considérer que la Société d'études camerounaise est le principal instigateur et porteur de la politique muséale au Cameroun à ses débuts. Quelques temps après sa naissance, elle sera incorporée à l'Institut fondamental d'Afrique noire et deviendra sa succursale locale. L'IFAM est fondée en août 1936, soit plusieurs mois après la création de la Société d'études camerounaise, par arrêté du gouverneur général de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Théodore Monod, son premier secrétaire général et directeur, écrit dans l'Africain, édition du 9 juin 1943. Je cite: L'IFAM ainsi aménagé ne sera que le centre fédéral qui se complétera par les succursales qu'il aura dans chaque colonie où vont s'édifier des centres locaux. Ceux-ci seront à l'échelon territorial ce que l'IFAN est à l'échelon fédéral. En effet, le centre fédéral était implanté à Dakar, capitale de l'AOF, avec des centres locaux dans les différents territoires, notamment à Abidjan, Bamako, Cotonou, Niamey, Ouagadougou. À côté de ces centres, il y avait des centres associés à Douala et à Lomé au Togo, et des bases. Au mois de novembre 1943, Madame Dugast, qui était alors la secrétaire de la Société d'études camerounaise, effectue un voyage à Dakar pour prendre contact avec l'IFAM à la demande du gouverneur général Conari. À la suite de ce voyage, la Société d'études camerounaise s'est transformée en centre associé de l'IFAM par arrêté du secrétaire général Léger du 9 mai 1944. Pourquoi parle-t-on de centre associé plutôt que de centre local en ce qui concerne le Cameroun? Il fallait garder la cohérence avec le statut juridique de la partie du Cameroun administrée par la France, qui était placée sous mandat de la SDN, puis placée sous régime de tutelle de l'ONU. Le centre associé avait pour siège Douala. En outre, la décision fut prise de créer un musée local à Douala et des musées régionaux à Fumban et Maroua. Le premier directeur fut Émile Meslé. Et bien évidemment, en 1960, lorsque le Cameroun accède à l'indépendance, le centre local de l'IFAM fut intégré au temps pour moi à l'Université de Dakar et le centre local de l'IFAM devint autonome. Qu'en est-il de la politique muséale au lendemain des indépendances? Il s'agit d'une politique muséale impulsée par l'État. Dès son accession à l'indépendance, l'État prend en main le destin politique de la jeune nation, pris dans le feu des luttes d'indépendance qui ont causé de pertes énormes en vies humaines et de nombreuses dissensions. Dans ce contexte-là, l'État encourage l'affirmation des identités à faible dose. Le multipartisme qui avait prévalu tout au long d'une bonne partie de la période coloniale est abrogé pour un retour au monopartisme. Dès lors, le parti État souhaite garder la mainmise sur le destin politique et culturel du pays. Faute de budget suffisant ou par simple calcul politique, la culture n'est pas inscrite comme secteur prioritaire. C'est dans ce contexte qu'intervient le décret numéro 77-245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles et qui fait des chefs traditionnels de simples auxiliaires de l'administration soumis à la toute-puissance de l'État. Ainsi, l'État légifère afin d'asseoir sa domination sur la chefferie et ses patrimoines. Quelques années après, un colloque national sur l'identité culturelle camerounaise est organisé du 13 au 20 mai 1985 à Yaoundé, afin de réfléchir sur l'avenir culturel du Cameroun. Un groupe de travail fut consacré à l'étude de connaissance et de préservation de l'héritage culturel camerounais. Les résultats de ladite commission se désolidarise quelque peu de l'idéologie prônée jusque-là en matière de politique culturelle. Les recommandations suivantes furent prises. Je cite: que soit favorisé, notamment par les échanges, l'interprétation des diverses sensibilités culturelles nationales pour assurer leur pérennité et leur meilleure préservation en vue de l'intégration nationale. Que soient effectivement mises en place des structures adéquates de préservation et de conservation du patrimoine national, ainsi que des structures de formation et d'exploitation de la production culturelle nationale. En l'occurrence, que soit créé un musée écologique national, à l'exemple du musée national de Niger, tel que présenté par Julien Bondance pendant la conférence inaugurale, et au moins un musée dans chaque province, une bibliothèque nationale et des bibliothèques municipales, un conservatoire national des arts et traditions, des centres d'édition du livre, un centre d'édition du disque, etc., etc. Les résolutions de ce colloque ne furent pas suivies d'effets concrets. On note donc un caractère monopoliste de l'État en matière de culture jusqu'au début des années 90. Je reprends là une expression chère à l'anthropologue et archéologue Germain Lumpet. C'est seulement au début des années 90, dans un contexte marqué par des revendications sociales et politiques pour un retour au multipartisme, que les lois sur les libertés d'association vont évoluer. Et le Cameroun va convoquer l'État général de la culture en 1991. Et il y aura des effets significatifs, notamment la création d'un ministère de la culture et d'une direction du patrimoine, le vote d'une loi du patrimoine à l'Assemblée nationale. Le musée national est ouvert en 1995 dans l'ancien palais présidentiel. Au même moment, le ministre de la Culture inaugure la nouvelle exposition du musée de Fumban qui, rappelons-le, est le musée le plus ancien ouvert dans un palais, car il fut aménagé par le sultan Djoya au début des années 20. Il faut saluer ici l'important travail mené à cette période par l'archéologue et muséologue Germain Lumpet. On note aussi, toujours au début des années 90, un début d'implication des communautés et des acteurs de la société civile dans les projets de sauvegarde et de valorisation du patrimoine. En ce qui concerne le musée Bokanda, la création du musée Bokanda est l'œuvre de deux ethnomusicologues, Geneviève Dunon et Simba Aron. À propos de la création du musée, je vous conseille de vous référer à l'article de Geneviève Dunon qui est paru dans le Muséum volume 22, numéro 2 de l'UNESCO de 1969. L'idée de la création d'un musée en République centrafricaine n'avait pas été formulée au départ par le gouvernement centrafricain, qui pensait créer plutôt un musée à la mémoire du premier président. Pour Geneviève Dunon, ce fut une idée de Sima Aron, qui était affecté en tant que coopérant. Au départ du projet, en 1964, il voulait constituer des archives sonores musicales de la Centrafrique et les compléter par une collection d'instruments de musique. Puis, au cours des recherches effectuées dans ce sens, un projet plus ambitieux se dessina. Il était désormais question d'étendre la collecte et les achats aux objets ethnographiques afin, disent-ils, de créer un musée des arts et traditions populaires. Les objets et les enregistrements sonores furent réunis par étapes successives au cours de différentes missions sur le terrain. Le musée fut inauguré le 1er décembre 1966 et en août 1967, quelques mois après l'ouverture au public du musée Bokanda, cette destinée fut remise entre les mains d'un directeur centrafricain, en la personne d'Évariste Mindelet. Lorsqu'on observe un peu de nos jours l'attitude des personnes gravitant autour du musée, cela nous renseigne quelque peu sur le devenu de la collection. Je vous cite là un extrait de témoignage d'une personne ressource que j'ai pu interroger sur le sujet. Quand Bokassa était président à l'époque et il voulait faire un cadeau à un autre, il envoyait chercher un objet au musée. Le personnel qui y travaillait lorsqu'il voulait écouter de la musique prenait les bandes magnétiques et ne pensait pas à les ramener. C'est comme ça que la quasi-totalité des enregistrements musicaux ont été emportés. Et pourtant, c'était un musée assez représentatif de la nation centrafricaine, puisque l'option fut prise de s'efforcer à représenter un ensemble plutôt que souligner des particularismes. Je cite là Geneviève Dunon. D'où le choix d'un thème d'exposition large avec des salles thématiques. Et le musée, à son ouverture, comptait cinq salles thématiques, une salle consacrée au rythme, une autre au travail et technique, au rite coutume du passé, aux activités domestiques de la femme et enfin aux activités enfantines. Je signale au passage que le musée centrafricain est fermé pour le moment. On y reviendra. Maintenant, en ce qui concerne la patrimonialisation des biens coutumiers dans les chefferies de l'Ouest au Cameroun, notons que la région de l'Ouest abrite des sociétés centralisées appelées communément chefferies. Ce sont des structures politiques préexistantes au système de gouvernance coloniale. Elles constituent la marque de l'identité culturelle régionale. Elles sont gouvernées par des chefs traditionnels et présentent une organisation hiérarchique basée sur l'attribution des titres de notabilité. Dans ces cultures, le chef est désigné par le vocable fo ou nantema, traduction, l'animal qu'on ne chasse pas. Comment s'est opéré le processus de transformation des biens coutumiers en objets culturels dans le contexte des chefferies? Quelle est la conception du patrimoine dans les chefferies de l'Ouest au Cameroun, son histoire et la manière dont cette conception se décline aujourd'hui en politique patrimoniale à travers la mise en place des musées? Alors, l'Ouest Cameroun compte à ce jour une dizaine de musées communautaires, autant pour moi, qui apparaissent dans le paysage local comme un véritable cluster culturel en matière de conservation du patrimoine. Il y a une équation à résoudre entre conservation rituelle et conservation muséale. Les musées de chefferie sont des musées alternatifs qui s'adaptent aux spécificités locales dans la mesure où le patrimoine artistique et culturel de chaque chefferie est constitué d'objets vivants qui continuent à être utilisés par les communautés. L'idée est donc de construire des structures culturelles où le public peut venir librement découvrir les biens patrimoniaux, mais qui n'empêchent pas les communautés de continuer à les utiliser. La présence du musée n'occulte pas la fonction rituelle des objets. Par contre, le va-et-vient permanent des objets du musée vers les circuits de la tradition engendre plusieurs problématiques en matière de conservation. Nous avons là en image la présentation de la région de l'Ouest Cameroun et de ses musées. On observe une très forte concentration des musées communautaires ou musées de chefferie dans la partie occupée par les chefferies dites Bamileke. Et là, on a dans la partie sud le vaste royaume Bamoun, qui abrite deux musées. Le premier qui est le musée des rois Bamoun, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le second qui est un musée créé par l'IFAN dans les années 40. En ce qui concerne la patrimonialisation des biens coutumiers dans les chefferies, il y a eu plusieurs entreprises patrimoniales. La première entreprise intervient pendant la tutelle de l'ONU sur la partie du Cameroun administrée par la France. Je vous conseille de vous référer aux travaux de Franck Bévier, qui a fait une thèse consacrée aux danses et aux funérailles dans les chefferies, et ensuite a publié un article en 2016 sur l'histoire d'une idéologie de l'art au Cameroun. C'était dans la revue Gradiva. Au départ, il y avait donc l'administrateur de la rosière et le coq qui peuvent être considérés comme les deux principaux artisans de la création d'un champ culturel et artistique appliqué aux biens coutumiers des chefferies. L'administrateur de la rosière fait bâtir le premier musée régional à Bafoussam, tandis que Monsieur le coq entame en février 1946 le premier inventaire du patrimoine sculpté de la région. Nous avons là en image une coupe schématique d'une chefferie avec une distribution des espaces de conservation, et nous avons à la fois des espaces de conservation de type moderne, le musée, juste là. Mais nous pouvons également avoir d'autres espaces qui offrent d'autres modalités alternatives de conservation. La deuxième entreprise patrimoniale survient peu après la naissance de l'État camerounais, au début des années 60. Elle est menée par l'UNESCO et consiste à un recensement et un inventaire des biens coutumiers. La troisième entreprise patrimoniale était un programme franco-camerounais d'inventaire iconographique des arts et de l'artisanat du Cameroun. Ces travaux étaient menés sous la coordination de Louis Perroy, avec une forte implication de l'historien de l'art Jean-Paul Nautuet. Et enfin, la quatrième entreprise patrimoniale, on a d'une part la coopération italienne à travers le COE, qui est un programme qui a eu lieu dans les chefferies au début des années 2000, Et enfin, la coopération française à travers la route des chefferies. Principalement, on note des actions d'inventaire du patrimoine artistique et culturel. Avec une forte influence des premiers travaux fondateurs, c'est-à-dire des travaux de Raymond Lecoq, de Delarosière. On peut également y ajouter des collectionneurs tels que Pierre Arthur. La création des musées dans les chefferies, la formation et la sensibilisation des publics locaux. Nous voyons donc que l'idée de conservation du patrimoine n'est pas neuve dans les chefferies. C'est plutôt le musée en tant qu'institution qui arrive à la faveur de la colonisation. La patrimonialisation des biens coutumiers à partir des chefferies elles-mêmes, c'est une réalité aujourd'hui. Il s'agit en quelque sorte des musées de soi qui visent à réinterpréter la notion de musée sans nécessairement opérer une rupture radicale avec l'héritage colonial. Et on note enfin une interdépendance entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine culturel matériel. La décision de ce qui peut être mis en musée ou pas est prise par les représentants de la culture locale. Les musées des chefferies présentent des contours nouveaux de ce que peut être un musée alternatif vu à partir du sud. Le processus est engagé et évolue peu à peu. Et à moi de m'interroger, le musée n'est-il pas au final un concept qui se renouvelle dans le temps et dans l'espace? Je vous ai mis là une coupe transversale d'une habitation bamiléké de type traditionnel et on voit très bien qu'avant le contact avec l'Occident, dans le schéma de construction d'une habitation ordinaire, on avait prévu des espaces de conservation. Mais les choix muséographiques opérés dans les chefferies entraînent également de nombreuses incidences. Il y a Pierre de Maret qui disait, je cite, que la conservation en Afrique ne se traduit pas uniquement par l'entreposage d'objets dans un musée, ni par un archivage sous forme écrite, visuelle ou sonore. La conservation par excellence consiste plutôt à garantir la survie d'un objet ou d'une institution dans son contexte social vivant. Je veux bien, mais lorsqu'on observe finalement le rendu, nous avons là en image quelques images, par exemple, du musée à ciel ouvert de Batoufam. Les biens coutumiers sont exposés dans les différentes cours de la chefferie et on voit très bien la difficile équation entre conservation muséale et conservation rituelle des objets. Par contre, c'est un tout autre spectacle lorsqu'on a affaire à un musée conventionnel. Ce sont toujours des images des musées des chefferies. À ma gauche, c'est le musée de Bapa et à ma droite, une image du musée de Bamangoum. On voit très bien que les problématiques de conservation des objets sont prises en compte dans cette typologie dans cette typologie de musée. Je vous ai mis une étude de cas parlant toujours de l'approche de conservation, de l'approche muséographique dans les chefferies. Cette étude de cas concerne la resocialisation du masque sacré de la chefferie Bamendou. La chefferie Bamendou est située à mi-chemin entre les villes de Tchan et de Bafoussam, à l'ouest Cameroun. Il s'agit du masque royal dit Touka, de la société K de Bamendou, un chef-d'œuvre de l'art bamiléké légué à l'État français en 1992 par son dernier propriétaire, le docteur Pierre Arthur, et exposé au pavillon des sessions du musée du Louvre à Paris. L'absence, l'objet est parti de la chefferie en 1957 à la suite d'un don du chef. Son absence a provoqué, d'après la communauté d'origine de l'objet, l'arrêt d'un certain nombre de rituels et généré des tensions au sein de la cour royale. C'est pourquoi il devenait urgent de le réintroduire afin de garantir la suivi des traditions. Le masque a été recréé, du moins se reproduit, et réintroduit au sein du circuit des traditions. Vous avez là en image l'apparat des membres du CA avec le nouveau Touka. C'était le 30 mars 2019 pendant le festival de la chefferie. Il existe désormais deux masques Touka, l'original, ou si vous voulez, le masque historique exposé au pavillon des Secessions du Louvre et le masque rituel conservé à la chefferie Bamendou. Quelques leçons à tirer. Nous voyons bien qu'au Cameroun, la resocialisation des biens coutumiers, requalifiée en objet culturel, a rendu possible la création de musées communautaires dans les chefferies. On voit à travers les différents exemples qui ont été développés dans le cadre de cette conférence l'interdépendance entre la culture matérielle et immatérielle. Finalement, la valeur d'un objet n'est pas homogène. Et dans le contexte des chefferies, la valeur patrimoniale est beaucoup plus mise en avant. L'exemple du masque Touka de Bamendou montre qu'il est possible de recréer et de réintroduire au sein d'une communauté un objet sacré, désormais absent et devenu objet d'art en Occident. Un objet est susceptible d'être remplacé par un autre pour peu qu'il soit doté d'une valeur symbolique pour la communauté. La resocialisation du patrimoine culturel peut donc servir de point d'entrée pour enrichir les connaissances autour des artefacts ainsi observés in situ et rebâtir une nouvelle coopération entre les acteurs du Sud et ceux du Nord. Revenons au musée national Barthélemy Bokanda. On note quand même que le spectre de la guerre plane sur ce musée, car après les événements de guerre civile qui ont ravagé la Centrafrique en 2013-2014, le musée a été victime de pillages et de graves dégradations. C'est dans ce contexte que les objets rescapés ont été confinés dans des caisses stockées au premier étage du musée grâce à l'assistance technique de l'UNESCO. Les caisses ont été exposées aux intempéries jusqu'à la réhabilitation de la toiture du bâtiment intervenue en 2017. Cette situation a engendré de nombreux dommages sur les objets, ce qui à terme menace la survie même du musée. Jusqu'à ce jour, les objets sont toujours entreposés dans les caisses. Quelques actions entreprises pendant la fermeture du musée. L'Association des Amis du Musée, créée en juin 2017, soutient activement le personnel du musée dans leurs activités. Un site internet a été conçu grâce au soutien d'Orange Centrafrique pour que le musée ait une visibilité à l'international. Je l'ai consulté ce matin et il ne passait pas du tout. Les militaires français, des éléments de soutien national, puis du DETAO, détachement d'appui opérationnel en République centrafricaine, se sont attachés, mission après mission, à soutenir le musée Boganda en construisant des grilles de protection pour les bureaux, en menant des travaux d'accès au site, en réhabilitant la salle d'archives et de documentation, mais aussi en fabriquant des étagères qui seront très utiles au moment de sortir les objets des caisses, afin de les répertorier et de les expertiser. Il y a quand même une lueur d'espoir parce que l'ambassade de France, grâce à un SOS lancé par un chercheur du CNRS, s'est résolu d'accompagner le musée pour sa réhabilitation. Et là, vous avez en image la remise des certificats aux 25 stagiaires centrafricains formés à la gestion du musée dans le cadre du projet de réhabilitation. C'était en août 2020 à l'Alliance française de Bangui. Lorsqu'on compare le régime de patrimonialité appliqué au Cameroun et en République centrafricaine, On constate qu'il existe deux modèles de gestion qui diffèrent ou s'entrecroisent d'un pays à l'autre. En ce qui concerne le modèle centrafricain, par exemple, il s'agit d'un modèle de gestion du haut vers les communautés. Et en ce qui concerne le Cameroun, le modèle de gestion va du bas vers le haut et implique la participation des groupes sociaux à toutes les étapes de la mise en valeur de leur patrimoine. Je vous remercie de votre aimable attention.
Merci beaucoup, Honoré. Ça fait grand plaisir de vous entendre présenter vos recherches et ces sujets qui sont en rapport avec elles. Peut-être sans plus attendre, on va passer aux éventuelles questions. Alors, une question. Lorsque vous dites à très juste titre que la resocialisation des objets peut permettre de repenser la valeur d'un objet, attribution d'une valeur symbolique à un objet non historique, comment penser la déontologie et la question de l'authenticité dans ce cadre et quels sont les textes législatifs en vigueur? Comment penser les collections si dans un musée, les objets ne sont pas authentiques et ont été remplacés par d'autres?
Je pense que dans le contexte des chefferies, les questions de déontologie et d'authenticité ne se posent pas comme dans le contexte d'un musée classique à l'occidental. Au départ, ce sont des biens coutumiers qui étaient utilisés au sein des communautés qui sont parti en Occident, peu importe la façon dont les circonstances et les façons. Mais une fois arrivés en Occident, ces objets-là ont été requalifiés en objets d'art et ont acquis d'autres valeurs. Par contre, la valeur symbolique, l'attachement des communautés à ces objets-là, elle n'a pas changé au fil du temps. Et à partir du moment où une communauté qui a perdu un objet décide de recréer et de resocialiser cet objet-là, je pense à mon humble avis que cette communauté est légitime et assez légitime pour le faire. Maintenant, sur la question de l'authenticité, c'est aussi assez relatif dans le contexte des chefferies. L'objet authentique, pour ma part, dans une chefferie, c'est l'objet qui a une valeur qui fait sens pour la communauté détentrice qui utilise l'objet. Lors de la conférence inaugurale, Julien Bondance a bien aborder ces questions d'authenticité. Et on voyait très bien que dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, les artisans qui étaient mis à contribution pour créer des objets qui étaient introduits dans le circuit des traditions en Afrique de l'Ouest étaient les mêmes qui étaient sollicités par les galeries et le marché de l'art pour créer des objets qui investissait le marché de l'art. Du coup, la question de l'authenticité de l'objet dans ce cadre-là reste quelque peu relatif, à mon sens.
Merci beaucoup, Honoré. Alors, une autre question a été posée. Pouvez-vous parler des perspectives du musée Boganda si le programme du FSPI peut se mettre en place?
Effectivement, je pense que le programme FSPI est un véritable espoir pour la Centrafrique. Voyez-vous, c'est un musée qui est fermé depuis 2013. C'est un musée qui a cette malchance d'évoluer dans un environnement marqué par des crises à répétition, par des guerres civiles à répétition. Et la dernière qui est encore en cours, c'est la crise post-électorale. J'ai eu la chance d'être associé à une mission du ministère de la Culture française en novembre 2019. L'idée était d'aller à Bokanda et de poser le diagnostic situationnel du musée et des collections et de ce qui peut être fait dans un temps raisonnable pour réhabiliter le musée, réhabiliter ses collections et le rouvrir au public. Le diagnostic a été posé de fond en comble. C'est un bâtiment qui est à revoir parce que le bâtiment subit de plein fouet l'inondation parce qu'il a été construit sur un terrain marécageux. Ce sont des bureaux qui sont à redistribuer. C'est une exposition qu'il faut repenser dans le contexte de l'après-crise en Centrafrique. C'est l'unique musée du pays et il peut se positionner comme le catalyseur de toutes les forces vives centrafricaines et être ce musée de la paix. Voilà. Donc, le projet a démarré de fond en comble. L'équipe du musée, qui était déjà très démotivée, a été remotivée. Et ils n'ont pas chômé du tout depuis 2019. Ils viennent de passer une année entière de formation et de remise en niveau sur les questions de gestion du musée grâce à un programme de formation qui a été mis en place par la direction des affaires européennes et internationales. Je pense que nul n'était la crise ambiante en Centrafrique en ce moment. Le musée accueillerait une autre mission pour continuer à mettre en œuvre ce projet qui, je le rappelle, constitue peut-être, à mon sens, le dernier espoir pour revoir ce beau musée ouvrir ce jour. Je signale que c'est un musée qui a de très, très belles collections.
Merci beaucoup, Honoré, pour cette réponse très complète. Moi, j'ai une question qui est très, très simple, hein, à vous poser, Honoré, qui prolonge un petit peu la réponse que vous venez de faire à Caroline. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la situation aujourd'hui des institutions patrimoniales et notamment des musées dans le contexte de crise qu'on vit actuellement?
En ce qui concerne le Cameroun, c'est une situation qui est assez difficile. Je parlerai surtout des musées de chefferie. Ce sont des musées avec un statut juridique assez fragile. La plupart des collègues conservateurs qui officient dans les musées de chefferie n'ont pas toujours une sécurisation de l'emploi. Ça veut dire que ce sont des musées qui vivent au jour le jour. Alors, dans le contexte de la crise sanitaire, fermer un musée pendant 6 mois, voire 8 à 1 année, signifie l'arrêt de bon nombre d'activités pour ces collègues-là. Je pense par exemple aux visites qui constituent l'essentiel des recettes au sein de ces différents musées. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est une reprise timide qu'on observe dans les musées de chefferie. Mais je dois tout de même saluer le fort appui de l'Agence française de développement qui vient de doter le programme Route des Chefferies, qui agit un peu comme un assemblier pour les musées des Chefferies, d'un important financement de 2 millions d'euros. Il y a également l'ALIP, qui vient d'accompagner le personnel des musées de Chefferies avec un financement conséquent. On voit très bien que ce sont des musées qui, sur le plan fonctionnel, restent assez fragile. Et tout honneur revient à la coopération française qui continue depuis le début de ces différents projets de les accompagner progressivement vers une autonomie.
Merci encore pour votre réponse. D'autres questions? Bonjour et merci pour votre intervention concernant la Centrafrique. L'iconoclasme a été un phénomène important de l'histoire des populations du XXe siècle et la destruction des artefacts du passé a été régulièrement menée par des figures politico-religieuses influentes, dont le même président Boganda, duquel le musée tire son nom. Est-ce que le musée tel qu'il était conçu jusqu'à sa fermeture n'était pas quelque peu décalé par rapport à l'expérience du passé et des traditions en vigueur dans le pays?
Au départ du projet en 64, ce ne fut pas une commande directe de la République centrafricaine. Les Centrafricains, eux, ils voulaient un musée centré sur le personnage de Barthélemy Boganda. Par un concours de circonstances, il se trouve qu'au même moment, il y avait deux ethnomusicologues qui étaient en séjour en Centrafrique et qui menaient leurs recherches. Finalement, le second projet a pris le dessus sur le premier projet, mais dans la scénographie même du premier musée, on observe comme un fantôme de Boganda qui gravit tout autour. Parce que avant d'arriver à la première salle thématique du musée, le hall d'entrée était consacré à la figure de Boganda. Maintenant, sur l'impact des iconoclasmes sur la destruction des biens coutumiers des groupes sociaux culturels. C'était un phénomène global. Il n'a pas concerné seulement la Centrafrique, même dans les chefferies de l'Ouest Cameroun, il y a eu beaucoup d'iconoclasmes religieux, perpétrés d'ailleurs parfois par des néo-chrétiens nouvellement convertis. Si on revient au musée centrafricain, moi je pense pour ma part que c'est un musée qui part gagnant pour une seule chose, la qualité des collections. C'est une collection assez riche, assez unique. En Afrique centrale, je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent de musée qui a une richesse conséquence en termes de collection d'instruments de musique, de patrimoine sonore. Même si, entre guillemets, il y a un bémol, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de ce patrimoine sonore-là se trouve hors de la Centrafrique, mais pour ce cas précis, ce n'est pas de la faute des uns et des autres. C'est aux Centrafricains de se mordre les doigts parce que ils ont négligé le patrimoine qui avait été reconstitué, qui avait été acquis, qui avait été collecté au fil du temps. Ils l'ont négligé par un concours de circonstances. Et fort heureusement pour ce cas-là, on voit très bien à quoi peuvent servir un double, une copie. Et je parle sur le contrôle de Caroline Gauthier que le ministère français de la Culture entreprend de restituer pour une troisième fois, je pense, ou une deuxième fois, le patrimoine sonore de la Centrafrique dans le cadre du projet de réhabilitation du musée. Maintenant, est-ce que tel que l'ancien musée était conçu, ça n'appelle pas à repenser fondamentalement ce que c'est qu'un musée national dans le contexte centrafricain d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, cher Andrea, mais il ne m'appartient pas de répondre de façon exhaustive à cette question parce que c'est du travail du comité scientifique du musée.
Merci pour la réponse, Honoré. Du coup, on va peut-être clore la séance. Il me reste à vous remercier encore pour votre participation à ce séminaire, qui, je le rappelle, était un séminaire en fait de confluence et de croisement entre deux programmes de rencontres que nous menons au cours de ce semestre. D'une part, un qui est dédié plus spécifiquement à la compréhension du patrimoine en Afrique, aussi bien son cadre législatif que les différentes institutions ou groupes d'institutions qui opèrent, les rapports entre patrimoine matériel et immatériel, et d'autre part, un séminaire qui est dédié, quant à lui, à l'exploration et à la compréhension des différentes approches, définitions et conceptions du patrimoine dans les grandes aires culturelles de notre monde contemporain. Et donc votre intervention, pour le coup, Honoré, s'inscrivait aussi dans la continuité, dans le prolongement de celle de Caroline Baudelet que la semaine passée. Vous pouvez continuer à consulter sur le site internet de l'INP la suite de notre programmation, les prochaines séances de notre séminaire consacré au patrimoine africain ou consacré à ce cycle, ce que patrimoine veut dire. Je vous signale en outre que le patrimoine africain fait l'objet, dans le cadre de la formation continue de l'INP, d'une session de formation spécifique qui est prévue cette année, qui sera plus particulièrement dédiée à la compréhension des collections d'origine africaine dans les musées français, afin que les professionnels de nos musées, qui ne sont pas toujours, de par leur formation de départ, extrêmement familiers de ces collections, puissent les comprendre, les interpréter, les valoriser et les partager avec le public. Vous pouvez aussi retrouver les informations concernant ce séminaire de formation continue sur notre site internet, dans l'onglet consacré à la formation continue. Merci encore à vous, Honoré. Merci aussi, Émilie, pour l'organisation de cette séance. Et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt.